Jésus, en se faisant homme, s'est approché de nous et a partagé notre nature humaine pendant 33 ans environ, et jusqu'à se donner comme salut de l'humanité. Après sa mort expiatoire sur la croix, il est ressuscité, se montrant à la Pâque jusqu'à 40 jours avant d'être enlevé au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu selon l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 19. Et Jésus avait promis à plusieurs reprises qu'après son départ, il enverrait son esprit comme consolateur. Il viendra pour demeurer éternellement avec vous et rendre témoignage de moi, avait-il dit. Le jour de la Pentecôte, qui marque dans le calendrier juif la fête des récoltes, les disciples étaient réunis dans la chambre haute, un lieu où ils se réunissaient ordinairement, selon Acte 1, verset 13. Et cette grande fête se célébrait 50 jours après la Pâque comme fête d'action de grâce de la moisson. Et ce jour fut le terme marqué pour l'accomplissement de la promesse. Le miracle de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, là même où ils s'étaient réunis le soir de l'Ascension, inaugurait la naissance de l'Église, car Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Vous l'avez compris, nous allons parler un petit peu de la venue du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous ouvrons ce matin Acte 2. Et je remercie mon frère Alex d'avoir déjà fait l'introduction, parce que je me disais c'est un long chapitre. Je vais pas tout lire parce que déjà en principe je vais m'intéresser ce matin au verset 37 à 47. Donc je lui remercie d'avoir pas fait trop de commentaires, parce que sinon je vais être un tout petit peu embêté. Donc voilà. Donc, puisque nous allons nous concentrer ce matin sur le résultat de l'Esprit, ce que l'Esprit a produit à ce jour de la Pentecôte. Parce que tout ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait en Christ. Mais tout ce qu'il fait en nous, il le fait par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée en nous de nouveaux désirs de vérité et de pureté. Donc, le titre que j'ai trouvé ce matin pour donner, c'est « Les effets du Saint-Esprit après la Pentecôte ». Dans ce paragraphe du chapitre 2 des Actes des Apôtres, il est question de gens qui sont touchés par un discours qui les atteint jusqu'au cœur et provoque une réaction qui va leur pousser à changer de vie. Et c'est de cette nouvelle vie que je souhaite m'entretenir particulièrement ce matin, tout en relevant quelques remarques dans ce texte qui commence par « après avoir entendu ce discours », c'est-à-dire le discours de la Pentecôte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après, et voilà. Donc, pour bien comprendre ce dont il est question, nous allons remonter un peu ensemble le chapitre, là où tout a commencé, pour arriver à, comme j'ai dit, à ces versets que j'ai sélectionnés ce matin, versets 37 à 47. Donc, je dirais que tout d'abord, la scène se déroule le jour de la Pentecôte, bien entendu, et ce jour-là, nous dit le verset premier, les disciples étaient assemblés, espérant l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit qui leur avait été promis. 10 jours se sont écoulés depuis que Jésus est monté au ciel, et tous là sont rassemblés dans la tente, conformément à l'ordre que Jésus leur a laissé avant son départ vers le Père, de ne pas s'éloigner de Jérusalem dans la tente, selon le verset 4 du chapitre 1. Et c'est là que tout à coup, dans cette chambre haute, lieu ordinaire de leur réunion, que le Saint-Esprit s'empara d'eux dans un vent qui remplit toute la maison, et ils sont remplis de l'Esprit et parlent d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. L'événement produit plutôt le rassemblement de la foule composée de gens de diverses origines. Et ce public cosmopolite, donc multilingue, Fort surpris d'entendre les disciples s'exprimer dans leur langue maternelle, se demandent donc la signification de cet événement. Ça, on peut le voir dans les versets 5 à 13 du chapitre 2 des Actes. Donc, eux qui, je disais bien, ces gens qui viennent célébrer la fête des semaines, cette grande fête d'action de grâce et pour la moisson, ils sont là. Et d'autre part, des moqueurs et d'autres raillent les disciples prétendant qu'ils sont ivres. On voit ceci au verset 13. Et il disait, ils sont pleins de vin doux. Et c'est alors que Pierre, il intervient, élevant la voix, et il s'exprima pour dire que ces gens qui parlent ne sont pas ivres, c'est la troisième heure du jour. Car en général, on peut supposer que les gens qui consomment de l'alcool ne le font pas le matin très tôt. Donc voilà la raison pour laquelle il dit c'est la troisième heure, pour un peu justifier que ces hommes ne sont pas ivres. Mais il dit ces hommes ne sont pas ivres, mais ils proclament l'évangile simultanément dans différentes langues. Ils racontent simplement les merveilles de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc Pierre prononce un message assez direct, sans ménage, invitant tous ces gens à la repentance pour recevoir eux aussi ce don du Saint-Esprit. Ça, vous le voyez dans verset 38. Donc ces paroles touchent le cœur, touchent les cœurs, et tous ont compris plutôt que les événements survenus ce jour-là à Jérusalem devaient entraîner une réaction, un changement de leur part. Et 3000 âmes acceptèrent, furent baptisées et ajoutées aux disciples, nous dit le texte. Maintenant, nous voyons ce que nous pouvons retirer de ce texte ce matin pour nous-mêmes, pour notre instruction et pour notre avancement spirituel. Donc, avant de repartir au ciel, Jésus y avait ordonné aux disciples à attendre que son Père leur accorde ce don qu'il leur avait promis, selon Jean chapitre 14 et le verset 26. Donc, si l'Esprit n'était pas venu, Jésus, il serait un menteur. Donc, la Pentecôte scelle l'accomplissement de cette promesse d'une manière visible, je dirais, et audible. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler des langues qui leur étaient inconnues. Il nous est dit, un vent puissant est venu avec une grande force. Ceci était destiné à signifier les influences puissantes et l'action du Saint-Esprit de Dieu sur nos esprits humains. Son esprit devait habiter dans le cœur des croyants pour les transformer et les équiper. Les langues furent, je dirais, un signe de l'union de la bénédiction de Dieu pour les nations, reconnaissant que si l'Esprit était venu sans manifestation, ça aurait été difficile de le reconnaître. Donc, en promettant la venue du Consolateur, Jésus disait à ses disciples, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ainsi, la communion de l'Esprit est un privilège réservé aux croyants, mais son action s'exerce aussi sur les non-croyants par notre témoignage, précisément pour provoquer chez eux la repentance et la foi. Nous connaissons tous des gens rebelles qui peuvent être touchés par le message de Jésus-Christ et nous demander, comme on le voit dans le texte, que faire. Ils peuvent nous demander que faire. Donc, notre rôle est aussi d'annoncer le salut en Jésus-Christ pour conduire ces personnes à réagir devant l'amour de Dieu pour eux. Se repentir est la première démarche indispensable et concrète qui fait de tout individu un enfant de Dieu. La repentance est une nécessité pour tous les hommes. Le message de Pierre adressé aux Hébreux le jour de la Pentecôte, à l'époque, contenait un appel clair. Tout peuple doit savoir avec certitude que Christ est Seigneur. La force de conviction du Saint-Esprit était si puissante qu'il y eut une réaction immédiate de la part de l'auditoire de Pierre. Sans qu'il lance l'invitation à se convertir, ils s'écrièrent tous « Que ferons-nous ? Que ferons-nous ?» Donc, c'est pour cela que Dieu répand son esprit en tous ceux qui croient, pour être efficace. La puissance du Saint-Esprit n'a pas été réservée aux disciples de la Pentecôte, mais à tous, dans tous les temps, de tous les temps, à tous les disciples de tous les temps. Depuis la Pentecôte, tous ceux qui naissent de nouveau reçoivent le Saint-Esprit au moment de leur nouvelle naissance. L'Esprit nous permet d'abolir notre passé et de commencer une vie nouvelle. C'est en étant baptisés du Saint-Esprit que nous sommes agrégés au corps de Christ. Si ce chapitre insiste sur l'œuvre du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est parce que cette première manifestation de l'Esprit a entraîné la naissance, figurez-vous, de la première église chrétienne, celle de Jérusalem. Donc depuis cet événement, pour les chrétiens, la Pentecôte est donc une fête importante car elle commémore l'envoi de l'Esprit qui donne naissance à l'Église. Plus de 20 siècles ont passé depuis la Pentecôte. Et voilà la question de ce matin, où en sommes-nous? Jésus a bâti son Église, le christianisme s'est répandu. Mais toutefois, notre responsabilité, je dirais, reste entière. Parfois, les chrétiens donnent une image démembrée, je dirais, de l'Église. Donc, est-ce que je m'applique à la voir l'Église avec le regard que Jésus porte sur elle et à y tenir ma place de façon agréable au Seigneur? L'Église est appelée à rendre un culte à Dieu, à être une communauté d'amour et d'obéissance qui démontre la vérité de l'Évangile et à faire du bien autour d'elle en agissant pour la justice. N'oublions jamais que les paroles de Jésus exhortent à l'amour mutuel et à l'action pratique pour la société. Il disait en Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Matthieu 5, verset 16, il nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Certains chrétiens connaissent et peuvent vous dire la date exacte de leur nouvelle naissance. Mais l'essentiel, c'est de donner des signes de changement véritable et d'avoir la certitude d'être né de l'Esprit. Pour le croyant authentique, la nouvelle naissance, c'est une expérience acquise. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'êtes jamais plus ou moins né de nouveau. On l'est ou on ne l'est pas. Et le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Fils de Dieu. Donc, on est de nouveau et on a le Saint-Esprit et qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils lui-même. Donc, cet Esprit de Dieu, cet Esprit de Jésus-Christ, il habite dans nos cœurs. Nous sommes nés de nouveau. Et chaque chrétien est une pierre vivante et non inerte dans l'édifice. Le Seigneur attend de chacun qu'il participe à la construction d'une manière efficace. Paul déclare que ceux qui vivent selon l'Esprit ont les tendances de l'Esprit, c'est-à-dire la prière, la lecture de la Bible, le culte, la communion fraternelle et les autres exigences de la piété deviennent pour le chrétien un besoin qu'il satisfait avec une joie grandissante. Car depuis la Pentecôte, tout croyant né de nouveau jouit de la présence constante du Saint-Esprit lorsqu'il vient élire domicile en nous parce qu'il vient dans sa plénitude. L'Esprit de Dieu n'est pas une force impersonnelle dont on mesure plus ou moins grand, dont une mesure plus ou moins grande nous serait accordée. Non, Dieu nous donne l'Esprit sans mesure, nous dit Jean 3, 34. L'Esprit est une personne indivisible. Je n'ai pas plus d'esprit que vous ce matin, si vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, nous avons tous la même proportion d'esprit. Mais nous avons parfois, pour ne pas dire souvent, le cœur partagé et nous en supportons les conséquences. Nous sommes heureux de la présence de l'Esprit dans notre vie, tout en souhaitant qu'il ne se montre pas trop envahissant. Cela s'appelle tout simplement, cela porte un nom, c'est attrister le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, l'Esprit est bien en nous, dans sa plénitude, mais nous ne le laissons pas disposer totalement de notre personne. Donc il faut donc laisser le Saint-Esprit de Dieu travailler d'autres nouvelles naissances et rejoindre mes frères et sœurs pour former l'édifice spirituel qui va maintenir la chaleur et la ferveur et de la présence constante du Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et au verset 42, parlant des 3000 baptisés, on peut remarquer quatre choses après l'effusion du Saint-Esprit, quatre moyens de grâce qui fut la vie de l'Église primitive dans lesquels il persévérait. Et je veux dire que la persévérance constitue une preuve aussi de notre conversion. Parce que persévérer, c'est être assidu. C'est être entièrement attaché, c'est être attaché et entièrement appliqué dans ce que l'on fait. C'est être aussi d'un empressement constant. Il persévérait donc dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ces quatre domaines, on va lire le chapitre et verset 37. Le chapitre 2 de Actes, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui persévéraient, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et par les apôtres et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, on peut voir retenir les quatre domaines dans lesquels ces nouveaux convertis, je dirais, progressaient, persévéraient. Ces quatre domaines honoraient et manifestaient leur gratitude et approfondissaient ce qu'ils avaient reçu. Ils démontraient par là la réalité de leur profession de foi. Ces moyens de grâce sont tout ce qu'il y a de plus propre à développer la vie de l'esprit dans les âmes et dans l'Église. Ces quatre domaines de persévérance s'imposent à nous ce matin d'une manière évidente si nous voulons éviter le risque d'un engourdissement spirituel. Ils persévéraient, nous dit le texte, dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est pour ces premiers chrétiens, c'est ce qu'ils ont pu connaître, c'est ce qu'ils ont pu apprendre de Christ et pour savoir comment le suivre, car ils n'avaient pas le Nouveau Testament, si je puis dire. Donc, et ce matin, bien entendu, si cet enseignement qui fut enseignement qui fut écrit et devint ce que nous avons dans les mains ce matin, le Nouveau Testament, je puis dire. Et donc, cet enseignement devint ce que nous possédons ce matin, je disais, et tout cela pour vous dire que de la même manière qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, nous devons nous aussi persévérer dans l'étude de toute la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres pour connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est cette parole qui rend sage à salut. La parole de Dieu, c'est cette parole qui nous permet qui nous préserve du péché. C'est la parole qui produit la croissance spirituelle. Et cette parole, elle a pour résultat une vie réussie, je peux dire. Une vie qui est conforme à ce que Dieu demande à chacun de ses enfants. Donc, il persévérait aussi dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils avaient une vie d'amour. Il persévérait dans la communion fraternelle parce que la communion fraternelle est fondée sur le dessein éternel de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle parce que la communion fraternelle se produit parce que Christ réside dans notre cœur. Donc, ce qui ressort de nous, c'est ce que Christ a mis en nous. La communion fraternelle doit se manifester dans nos relations chrétiennes. La communion fraternelle aura pour résultat l'édification et la croissance de l'Église. Et la communion fraternelle démontre par Jésus-Christ, est démontrée par Jésus-Christ lui-même, parce que c'est Jésus-Christ, c'est lui notre exemple. Ensuite, il persévérait dans la fraction du pain. Les fractions du pain, c'est une marque aussi de la vie chrétienne. Dieu veut qu'on pense aux autres, que l'on partage. La fraction du pain indique dans le Nouveau Testament à la fois la scène et le partage d'un repas selon le contexte. On peut voir qu'il y avait la communion, le partage, et après il passait ensuite à la Sainte Cène. Donc à l'Église primitive, un repas fraternel était organisé en rapport avec la Cène pour exprimer l'affection que tous les saints se portaient les uns aux autres. Et puis, quatrièmement, il persévérait dans les prières, il nous est dit. Il persévérait dans les prières. La prière, c'est un témoignage d'une vie de consécration. L'expression « persévérer dans la prière » souligne la fréquence de ces prières en commun. Une pratique essentielle qui exprime une dépendance totale du Seigneur pour les décisions à prendre, par exemple, pour la protection et le service. La persévérance dans la prière, elle édifie, nous dit Jude 20. Un chrétien est un adorateur du Seigneur. Donc, il doit persévérer dans la prière. Parce que nous avons un puissant adversaire, nous dit Éphésiens 6, verset 12, et Luc 8, verset 12 aussi, ainsi que 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Persévérer dans la prière parce que Dieu seul peut nous garder et préserver de la chute. Persévérer dans la prière produit la patience dans l'espérance du retour de Christ. En fait, que nous révèle la comparaison de notre Église aujourd'hui avec celle de l'Église primitive? On peut se poser la question ce matin, où en suis-je aujourd'hui dans ma foi? Quelle est la qualité de ma vie spirituelle aujourd'hui? Quel est le niveau de mon enthousiasme et de ma ferveur dans mon engagement avec Dieu actuellement? Soyons conscients que le Saint-Esprit en nous est le plus merveilleux des guides. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un privilège destiné à quelques personnalités exceptionnelles de l'Église. Depuis la Pentecôte, tout croyant né de nouveau jouit de la présence constante du Saint-Esprit. Il est impératif de maintenir et développer un haut niveau spirituel, une bonne communion afin qu'un assèchement ne se produise pas. L'Église locale, l'Assemblée de Dieu, doit veiller à ce que rien n'étouffe l'expression de la foi et ne l'atrophie. Notre service dans l'Église est vain et stérile sans la présence, la direction et la puissance de l'Esprit-Saint. Les plaisirs et les attraits du monde environnant créent des habitudes qui diminuent la foi et paralysent le corps de Christ. Il est donc essentiel d'avoir aussi la vision de l'ambition de vivre régulièrement des renouveaux spirituels. Nous sommes appelés à rechercher la sanctification, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. À l'exemple des disciples et des premiers chrétiens qui se réunissaient fervents, zélés et priaient dans l'attente de la réalisation de la promesse divine concernant le baptême du Saint-Esprit, savez-vous que nous sommes aussi dans une attente. Si nous désirons grandir dans la foi et voir la croissance du royaume de Dieu dans notre vie et celle de l'Église, nous avons besoin de manifester une détermination, une abnégation similaire à l'Église primitive. Remarquez que suite à leur persévérance commune, l'Église grandissait. L'unité emmène l'onction. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église des membres, nous dit le texte au verset 47. Si ces éléments sont relatés dans les Écritures, c'est pour nous assurer que le Seigneur souhaite constamment renouveler et fortifier ses enfants. Il suffit de chercher sa face, de rechercher sa face dans la communion. Un enfant de Dieu ayant reçu les paroles inspirées est invité à persévérer spirituellement. Et ces passages des Actes montrent que le Seigneur souhaite rafraîchir ses disciples et les inonder de ses grâces lorsqu'ils sont unis et dans un commun accord. La condition incontournable pour voir les projets bienveillants et merveilleux du Seigneur se réaliser, c'est d'être unis en communion vivante avec l'Esprit de Jésus-Christ. À ce moment-là, le Seigneur il réalise des choses nouvelles dans la vie des chrétiens régulièrement. Dans nos vies, il faut se le dire, certains progrès ont eu lieu, d'autres pas encore, d'autres pas encore réalisés ou pas encore pleinement manifestés. Il nous manque, je dirais, des victoires, des expériences. Et c'est pourquoi il convient de permettre au Seigneur de poursuivre son œuvre de renouvellement en persévérant et en préservant l'unité. Car tous les aspects de la piété, la prière, la méditation biblique, la louange, la fidélité et la consécration dans un service, la participation à la vie de l'Église nécessitent la persévérance commune pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Tous les succès de l'Église révèlent un entretien permanent dans la confiance et la dépendance de Dieu par l'enseignement, la communion fraternelle, le partage et les prières de l'Église dans son ensemble. L'Église est la gloire de Christ. L'apôtre Paul glorifiait et se réjouissait de la bonne volonté des Corinthiens. Il disait « Leur zèle avait stimulé le plus grand nombre ». Imaginez ce qui se passerait si les gens voyaient notre Église complètement bouillant pour Dieu. Que se passerait-il si tous les membres seraient passionnés par les études bibliques, passionnés par les réunions assidues au culte, passionnés par leurs relations avec Dieu, passionnés par le service les uns aux autres, passionnés par le vrai christianisme tout simplement? Moi, je crois sincèrement qu'à la lumière de ce que nous voyons dans le texte de référence, que cela créerait une attraction divine et que cela transformerait les gens autour de nous. Alors, pour cela, travaillons donc à témoigner de la passion pour Dieu dans nos rencontres et dans nos agapes, etc. Relevons le défi de vivre notre chrétienté avec une réelle passion. Prenons la décision de nous donner à fond pour Dieu. Vous savez, chacun de nous peut allumer la passion chez l'autre. Essayez, vous verrez. Demandez à Dieu de mettre en vous, dans votre cœur, cette passion totale, ce zèle pour Christ qui stimule ceux qui sont en contact avec vous. Ceux qui viendront dans notre communauté, notre église locale, et vous verrez ce qui se passe. La passion, je vous l'assure, est contagieuse. Alors, je dirais pour conclure, dès aujourd'hui, soyez contagieux de l'amour de Dieu qui brûle dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Rendez visible votre enthousiasme aux yeux des autres. Écoutez l'Esprit de vérité vous parler, ouvrez votre cœur comme peut-être vous ne l'avez jamais fait pour être rempli de sa présence. Laissez son amour brûler en vous tellement fort qu'il va déborder et contaminer la vie de tous les gens que vous côtoyez. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Un travail surnaturel s'est opéré dans les auditeurs de Pierre par le Saint-Esprit. 3000 âmes augmenta le nombre des disciples et par leur persévérance, par leur unité et leur assiduité dans l'adoration et la louange, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, voilà ce que j'ai essayé de partager ce matin concernant la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte et la vie de la communauté de l'Église qui suivit, parce que l'idée ce matin, c'était ça, c'est la Pentecôte, oui, parce que la Pentecôte, elle a existé, elle était là avant la venue du Saint-Esprit. On dit toujours la Pentecôte, mais c'est le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'était déjà une fête. Donc c'est la question ce matin, c'est ça, la Pentecôte, l'Esprit est venu, mais et après. Donc, on est dans le après aujourd'hui. Donc, voilà ce que je veux retenir. Alors, que notre Église soit une communauté de l'Esprit qui témoigne de sa foi en Jésus au plus grand nombre pour la gloire de Dieu et le salut d'un plus grand nombre. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.